Radio Okapi. Le journal Belinda Bousouma.
Sakani prend le bâton de commandement du ministère de l'Intérieur. Conscient des défis à relever, il compte sur les différents services de l'ordre public pour assurer la sécurité intérieure de tous les Congolais. Journée de recueillement et des prières pour la paix et la justice en RDC. Des messes ont été organisées à ce sujet aujourd'hui à Kinshasa, une initiative de la CENCO en réponse à l'appel du pape François. Et puis, la malnutrition prend des allures inquiétantes au Kasaï central. Pour en parler, nous recevons le professeur Théodore Mwamba, secrétaire général académique de l'ISTEM Kananga. Madame, Messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par cette cérémonie de remise et reprise aujourd'hui au ministère de l'Intérieur à Kinshasa entre le ministre sortant Emmanuel Chadari et Henri Movasakani. Ce dernier a été nommé cette semaine par le président de la République. La cérémonie de ce vendredi a eu lieu en présence des responsables de la police, de l'Agence nationale des renseignements ainsi que de tous les services sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Témoin de l'événement, Michel Kifindangoy.
Dans son discours bilan, le ministre sortant s'est félicité notamment d'avoir réconcilié les Pygmées et les Bantous dans le Tanganyika, ainsi qu'en ayant tiré les milices Kamuenan-Sapu et Bundu-Dia-Congo. Mais il reconnaît qu'il y a encore des défis à relever. Emmanuel Ramazani Chadari.
Quelques défis risquent de vous empêcher de dormir. L'activisme des cellules de nouveaux mouvements anarchistes à label chrétien, CLC, Église catholique, l'exploitation des réseaux sociaux par des entrepreneurs de l'insécurité, des mouvements intégristes, insurrectionnels ou des groupes terroristes.
Après avoir rendu hommage à son prédécesseur, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a invité les services de sécurité à plus d'engagement pendant cette période électorale. Henri Movasakani.
Vous avez démontré que le premier défenseur des droits de l'homme, c'est l'État congolais. J'ai donc confiance que je m'appuierai sur vous pour que nous engageons à faire en sorte que le Congo sorte grandi de toutes les épreuves endurées et que les expériences accumulées soient de plus en plus positives, notamment celles des prochaines élections.
Henri Movasakani s'est dit confiant des défis à relever et compte sur l'engagement de la police, la DGM, l'ANR et tous les autres services de la territoriale afin d'assurer la sécurité intérieure de tous les Congolais.
Restons à Kinshasa pour signaler le report pour la semaine prochaine de l'échange prévu aujourd'hui entre la CENI, l'UDPS et l'Alternance pour la République. La rencontre devait porter sur l'évolution du processus électoral, surtout en ce qui concerne la machine à voter. Cela rentre dans le cadre de la campagne de sensibilisation que mène actuellement la CENI sur ce processus. Hier, la centrale électorale s'était longuement entretenue avec la délégation du MLC et du Front pour le respect de la Constitution. À l'issue de cet échange, les deux parties ne s'étaient pas accordées sur l'usage de la machine à voter qui doit requérir un large consensus entre toutes les parties prenantes au processus électoral en RDC. Le compte rendu de cette rencontre d'hier avec Askin Zibiataoro.
Les débats ont été houleux entre la CENI et le MLC au cours d'un entretien de plus de deux heures. Hormis les avancées réalisées par la CENI dans le processus électoral, la machine à voter ne semble pas encore convaincre les cadres du MLC. Eve Bazeliba, secrétaire général du parti.
Nous avons vu l'appareil devant, mais la programmation, nous n'avons pas la maîtrise de cela. C'est une innovation qui n'a pas au départ requis le consensus des parties prenantes que nous sommes.
La CENI dit être ouverte aux critiques des parties prenantes au processus électoral. Norbert Basengezi, vice-président de la CENI.
Ce qui est positif, c'est que nous allons continuer à nous rencontrer avec les partis politiques. Ils ont dit qu'ils ont d'autres experts. Nous allons attendre ces experts-là pour que nous puissions travailler main dans la main. Donc, toutes les inquiétudes-là seront élaguées par des contacts permanents. C'est un tampon qui est lancé pour continuer le consensus dont a parlé Madame la secrétaire générale du MLC.
Au cours de cet échange, le MLC propose à la CENI de garder le système de vote manuel comme par le passé. Une proposition qui risquera, d'après l'entendement de la CENI, de bouleverser sa planification et par conséquent retarder la tenue des élections en décembre 2018.
Entre-temps, le mouvement de solidarité pour le changement MSC, un parti politique de l'opposition, rejette la machine à voter proposée par la commission électorale. Son président national, Laurent Batoumona, estime que cette machine va favoriser la tricherie à grande échelle. Il l'a dit à la presse hier en marge de la session du conseil politique national de son parti à Kinshasa. Laurent Batoumona explique la position de son parti. Il est au micro de Paul Matendo.
Aussi longtemps que le fichier qui est en train d'être confectionné par le président Nanga n'est pas encore définitif, nous devons exiger que l'audit indépendant soit engagé par rapport à ces deux matières. Et rappelez-vous qu'aujourd'hui, les experts internationaux sont à la porte de la CENI pour discuter des matières à gérer ensemble. Aujourd'hui, il y a un refus pratiquement catégorique de la CENI. Donc, il y a un glisse sur roche. Voilà pourquoi nous disons par rapport à la machine à voter, c'est une machine à tricher. C'est une planification de la tricherie à grande échelle pour pousser à ce que la majorité puisse se cramponner au pouvoir. Et nous pensons que cette machine doit être rejetée dans les processus électoraux.
Je vous le disais en titre, l'actualité aujourd'hui, c'est aussi ces messes organisées ce vendredi matin dans plusieurs paroisses et écoles de la capitale Kinshasa. C'était une journée de recueillement et des prières pour la paix et la justice en République démocratique du Congo. Journée initiée par la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, en rapport avec l'intention de prière du pape François en faveur de la RDC et du Soudan du Sud. Jean-Pierre Elali s'est rendu dans certaines paroisses dans la mi-journée. Voici son reportage.
Des chrétiens catholiques de la capitale ont participé ce vendredi matin à la célébration eucharistique dite messe de la paix dans leurs paroisses respectives suite à l'appel des évêques. C'est le cas de la paroisse Saint-Thom et Damien dans la commune d'Engaliema. À la mi-journée jusqu'à 15h, c'était l'Angélus et l'adoration eucharistique. Les fidèles catholiques ont organisé la rotation des groupes pour la permanence devant les 13 saints sacrements. À la paroisse Notre-Dame du Congo, quelques fidèles se sont agglutinés devant les saints sacrements. Ici, recueillement et silence ont contrasté avec le brouhaha habituel de la cité. Sœur Evelyne, en même temps professeure d'école, rencontrée devant l'église, donne le sens de ce moment de méditation.
C'est le temps de recueillement, une journée de prière, de jeûne, et nous offrons notre pays à la main du Seigneur. Et ici, je suis venue en suivant le programme de l'adoration au Saint Sacrement et suivi de l'arroseur. Au collège, il y a eu la messe. Après, il y aura un temps de recueillement des élèves.
Françoise, chapelet à la main, explique.
On peut se communiquer depuis dimanche que nous avons
le programme de cette journée prévoyait à 15h30 le chemin des croix, coïncidant avec les temps forts des carêmes, et à 17h, une célébration œcuménique.
Cap sur la province de la Tchopo, le ministre provincial du plan budget portefeuille investissement entrepreneuriat et médias a démissionné de ses fonctions hier. Le gouverneur de province l'a aussitôt remplacé dans la soirée par le maire sortant de la ville de Kisangani, Dorcas Kanko.
Le professeur Patrick Matata, ancien ministre provincial du plan budget portefeuille investissement entrepreneuriat et médias, a fait savoir sa démission au cours d'un point de presse. Il s'insurge contre la léthargie générale du gouvernement provincial, selon ses propres termes. L'ancien porte-parole du gouvernement Lomata évoque également ce qu'il qualifie de violation quotidienne de loi de la République par l'exécutif provincial. Pas de frais de fonctionnement, les attributions du ministre sont exercées par les conseillers du gouverneur de province, a-t-il fait savoir à la presse. Quelques heures plus tard, le gouverneur de province signe un nouvel arrêté, le remplaçant par Augustin Osumaka, ancien maire de la ville de Kisangani. Il s'en est ensuite suivi une déclaration d'un groupe de ministres provinciaux affichant clairement leur soutien au gouverneur de province. Dans cette déclaration, ils évoquent notamment la réalisation de certains travaux de construction et de réhabilitation de routes d'intérêt provincial. Pendant ces temps, certains observateurs avertis craignent une crise latente au sein du gouvernement provincial qui risque de compromettre le développement durable de cette entité. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
Direction l'Ituri. Deux personnes, dont un militaire des FARDC, ont été tuées dans un affrontement la nuit dernière entre les miliciens de FRPI et les forces loyalistes. Cela a eu lieu à Tradadi et Singo, deux villages situés entre 55 et 60 km au sud-ouest de Bounia, chefferie de Walindoubindi. Des sources de la société civile rapportent que les assaillants ont pillé plusieurs biens de la population avant de se retrancher dans leur maquis. Les habitants qui avaient fui en brousse suite à la panique ont regagné leur village. Jean-Claude Lowe qui nous raconte.
Des sources sur place indiquent que des miliciens ont opéré durant environ 2 heures, soit de 21h55 à presque 0h locale. Tradadi était leur premier village ciblé avant de gagner Singo 2, une autre localité voisine. Environ 50 hommes armés, selon l'ancien civil, ont investi ces hommes où ils ont extorqué des biens de la population. Alertés, les FARDC tentent de repousser ces éléments. Dans la foulée, un soldat des FARDC tombe et un jeune enseignant est abattu à bout portant dans son lit. Des voix s'élèvent pour demander aux autorités de ne pas oublier le sud d'Irumu où des miliciens des FARPI continuent à commettre des tueries, viols et pillages des biens de la population. Wilson Nadiro, député national, estime que l'attention est plus focalisée actuellement sur le territoire voisin de Djougou où la situation sécuritaire est volatile. Toujours selon la société civile, le troisième soldat des FARDC qui était porté disparu est réapparu. Mais tous ses effets militaires, dont son arme, ont été emportés par ses miliciens. Le porte-parole des FARDC confirme le retour de cet élément sans confirmer qu'il a été dépouillé de ses biens. Bounia, Jean-Claude Lokidile, Radio Okapi.
Du côté du Nord Kivu, les FARDC ont repoussé hier après-midi une nouvelle attaque des présumés ADN à Mbaou dans le territoire de Beni. Ces violents affrontements qui ont duré quelques heures ont occasionné le déplacement de certains habitants de cette localité vers la ville de Beni et l'arrêt momentané du trafic sur la route nationale numéro 4. Le porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord confirme que la situation est sous contrôle des FARDC et appelle la population de Mbaou à regagner cette localité. Le capitaine Makazukai revient sur cette attaque au micro de Martial Papimukeba.
Les extrémistes islamistes de l'ADF ont fait incursion hier aux environs de 15h à Mbaou. Malheureusement pour eux, l'intervention des FARDC a été prompte, rapide et efficace. Il y a eu de violents affrontements parce que l'ennemi était déjà dans la localité. Nous avons réussi à repousser cette attaque, neutraliser deux de ces bandits, à récupérer aussi des armes. Comme vous le savez, l'ennemi qui est touché en profondeur est pratiquement en errance. C'est vrai que c'est au moment où le commandant des opérations, le général Bangoumachita Marseille, s'adressait aux unités représentées à Beni que cette attaque a eu lieu. Bon, je ne sais pas exactement si l'ennemi le savait ou pas. 15h30, le général Bangoumachita Marseille était sur le lieu de bataille. C'est lui-même qui a organisé cette contre-attaque. La population de Mbaou est déjà rentrée. Depuis hier, à 16h, les activités ont repris. La route a été réouverte.
Restons au Nord Kivu avec cette situation sécuritaire de plus en plus précaire dans les localités de Luibo et Lukweti, aux environs de Nyabiondo, c'est à cheval entre les groupements Bafuna et Bachalimokoto en territoire de Masisi. Selon les activistes locaux des droits humains, au moins 6 villages sont vidés de leurs habitants à l'issue d'une opération de traque contre l'APCLS de Janvier Kalahiri, opération qui a permis aux FARDC de rejoindre le contrôle de la zone. Depuis, des cas de viol et de pillage sont signalés, comme nous le dit
Entre le 25 janvier 2018, date de la reprise du contrôle de la localité de Luibo par les FARDC, à l'issue d'une opération militaire contre la PCLS de janvier, jusqu'au 19 février courant, les activistes locaux affirment avoir déjà documenté un minimum de 60 cas de viols commis sur des femmes et des jeunes filles. C'est notamment dans les villages Luibo, Bikunche, Boutemouré, Katiri, Muroba et Kilambo. Au sujet des auteurs présumés de ces viols, ces activistes pointent du doigt les combattants d'une coalition APCLS de Seguidon et quelques éléments FARDC. Depuis le 12 janvier, la zone de Luibo est affectée par des conflits armés opposant l'APCLS de Janvier Kalahiri contre un groupe de ces dissidents qui ont coalisé avec le NDC de Guidon. Selon les sources administratives locales, le 24 janvier dernier, les FARDC y ont déployé leurs soldats pour stabiliser la zone. Cependant, la zone est de plus en plus instable. Toutes les écoles ont fermé. Les déplacés, estimés à plus de 3000, seraient à présent vers Nyabiondo et Bukombo, entre autres. Goma, Bernard Nyangi pour Radio Kapi.
Rendons-nous dans la province du Haut-Lomami avec ce bilan. 12 000 hectares des champs ont été dévastés par des éléphants l'année passée. C'est ce qu'indique la commission d'évaluation des dégâts multiformes causés par des éléphants en divagation dans les territoires de Malembankoulou et Bukama. La présentation du rapport s'est faite hier en présence du gouverneur de province. D'après ce rapport, cette situation nécessite 3 000 tonnes de semences à distribuer aux 30 000 ménages déplacés de leurs villages respectifs à la suite de la divagation des éléphants dans ces deux territoires. Nelly Kabena nous en dit plus.
Pour ce besoin de 3 000 tonnes de semences, indique l'honorable Paul Ngoï Senga, et président de la commission, il faut mobiliser un montant évalué à plus de 3 380 000 francs congolais afin de permettre à ces ménages de reprendre leurs activités champêtres. Ces populations affectées sont celles de Manga, Kinda, Malembankoulou, Kabala et celles longeant le parc Kupemba à Bukama. Au cours de ces enquêtes, la commission rapporte que 12 000 hectares des champs ont été dévastés par ces pachydermes en divagation. Si les moyens ne suivent pas, les territoires de Malembankoulou et Bukama connaîtront une crise alimentaire aiguë. Au sujet des semences, la commission indique qu'il faudra 750 tonnes de haricots, 750 tonnes pour le riz, 1500 tonnes de maïs. La même commission a relevé également les besoins en matériel aratoire composé de houes, machettes et bêches pour près de 800 dollars américains. Pour cela, le gouverneur de la province a indiqué qu'il faut mobiliser les moyens pour matérialiser cette assistance aux ménages sinistrés. De Lubumbashi, Noli Kabena, Radio Okapi.
Actualité Afrique Monde.
Nous sommes d'abord au Rwanda. 5 réfugiés congolais ont été tués et une vingtaine blessés hier lors des manifestations dans le camp de Kiziba dans la province de l'Ouest. Des manifestations qui auraient tourné à l'émeute selon la police rwandaise. Des faits corroborés par le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Rwanda. Le ACR demande une enquête à ce sujet. Au Nigeria, on est toujours sans nouvelles des collégiennes de Dapchi. Il s'agit selon la police de 111 jeunes filles précisément qui sont portées disparues depuis lundi. Et un raid de Boko Haram dans cette localité de l'état de Yobe. Hier, le gouverneur de l'état a annoncé aux familles qu'aucune écolière n'avait finalement été retrouvée par les autorités. Un changement des versions donc, car il avait affirmé le contraire la veille. Les habitants et familles des jeunes disparus sont en colère. Entre-temps, aux États-Unis d'Amérique, depuis la tuerie du lycée de Parkland en Floride, les élèves de cet établissement sont devenus les visages du militantisme contre les armes à feu aux États-Unis. Dès les premières heures après le massacre, ils ont décidé l'inactivité des politiques et notamment de Donald Trump face à la multiplication des fusillades en milieu scolaire, 18 depuis le début de cette année aux États-Unis. Et puis, Jeux Olympiques Corée du Sud 2018, notez que la bobeuse Nadezhda Sergeeva a été contrôlée positive à une substance illicite durant ces jeux d'hiver. C'est le deuxième cas de dopage russe possible à Pyeongchang. Il intervient alors que le comité olympique doit décider demain 24 février de l'éventuelle levée partielle ou totale de sanctions qui frappent le comité olympique russe. Merci de continuer à nous suivre.